Jacques Semelin, bonjour.
Bonjour.
Compte tenu de tes nombreuses recherches sur les questions de violence extrême, de violence de masse, sur le terrorisme, sur les terrorismes, j'aimerais commencer cet entretien en te demandant de préciser le concept de génocide. Est-ce qu'on peut l'indiquer de façon précise? Est-ce qu'il faut l'élargir? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de le dissoudre?
Alors, la notion de génocide est d'abord née en droit international. C'est un juriste qui l'a créé, le juriste polonais, qui est devenu ensuite américain, Raphaël Lemkin. Il crée ce terme en 1944, avec cette idée qu'il voulait une notion qui soit en quelque sorte en parallèle avec la notion d'homicide, donc meurtre d'un individu. Et il va proposer très vite une définition comme quoi il s'agit de l'intention de détruire un groupe national ou racial. Alors national, il pense à la Pologne, puisqu'il est d'origine polonaise, et que c'est en 1944 qu'il crée cette notion. La guerre n'est même pas finie et que son pays est toujours occupé. Et puis, racial, ben, il pense évidemment aux Juifs. Et il va vouloir faire reconnaître cette nouvelle notion en droit international. Donc là, on parlera de crime de génocide, ce qui est très important. Pour moi, il y a une différence à faire entre crime de génocide et génocide. C'est-à-dire, crime de génocide, on est dans le droit international, génocide, on est dans une notion en sociologie, etc. Et il va aboutir à ses fins en 1948, puisque la toute jeune Assemblée générale des Nations unies, le 9 décembre 1948, va adopter un texte qui a pour titre « Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ». Alors ce qui est très important dans cette convention, c'est qu'on donne une définition donc, du génocide. Ce n'est pas uniquement Lemkin, parce qu'il a travaillé ce texte avec d'autres juristes. Il n'a évidemment pas fait ça tout seul, et ça a un petit peu évolué. Donc, les mots clés de cette convention, c'est l'intention de détruire un groupe en tant que tel, en tout ou en partie, et groupe national, racial, on y est, ethnique ou religieux. Aujourd'hui, on parle plus de violence de masse, on ramène le génocide vers des processus de violence, des violences extrêmes, et avec cette idée que tout massacre n'est pas un génocide. Ouais. Mes collègues, souvent anglo-saxons, ont parfois cette tendance-là. Or, je crois que c'est très important de distinguer les deux, c'est-à-dire qu'un massacre, j'en donnerai cette définition, c'est une forme d'action collective, le plus souvent collective, donc d'une certaine manière on a la sociologie de l'action collective, de destruction de non-combattants. Alors, c'est un phénomène qui est aussi vieux que l'humanité, qui est lié à la guerre. Et la question, c'est de savoir comment, dans quelles circonstances, un massacre ou une série de massacres peut devenir un génocide. Et donc, la question du racisme, elle se pose là, c'est-à-dire, quels sont des massacres qui pourraient être de nature raciste dès le départ ou qui vont le devenir et qui vont évoluer vers un processus génocidaire. Dans la notion de génocide, il y a nécessairement la notion d'organisation. Il y a l'idée que c'est un processus qui monte en puissance. Alors, par rapport au racisme et l'antisémitisme, j'ai appris à travers toutes sortes de travaux à être assez pessimiste, on va dire, sur la réalité des choses. C'est-à-dire que je pense que ces idées racistes et antisémites, on va dire, existent dans nombre de sociétés. Quelle que soit leur période, enfin bon, il faudrait développer ça, mais je veux dire, il faut faire avec. Je ne crois pas à l'éradication possible du racisme ou de l'antisémitisme. Bon. Mais heureusement, toute société qui contient ces idées racistes et antisémites ne va pas évoluer vers un processus génocidaire. Heureusement, sinon il y en aurait beaucoup. Donc, la question, c'est de savoir, encore une fois, donc, comment ça peut monter en puissance. Et là, tu as plusieurs étapes, plusieurs processus, et ce sont toujours des processus indéterminés. Il ne faut surtout pas voir le génocide comme une fatalité. C'est un processus qui se construit dans le temps, qui peut connaître des accélérations stupéfiantes. Hein. Mais peut-être sur quoi j'insisterai au début, c'est sur le fait qu'on parle d'une société qui va mal, où le chômage est très, très important, les jeunes n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir, il y a probablement aussi beaucoup de réfugiés, la guerre n'est pas loin, etc. Et dans ce contexte-là, on a toujours des, on va les appeler des idéologues, mais parfois ce sont des intellectuels, hein, qui disent, voilà, on a beaucoup de problèmes, mais si on commençait par se débarrasser de ces gens-là, ça irait beaucoup mieux. Donc, il va se construire ce que j'appelle des figures de l'autre en trop, qui peut être une figure diverse en réalité, c'est-à-dire, mais l'autre en trop, c'est, il n'est pas comme nous. Il a pas la même couleur de peau que nous, il a un gros nez, il ne parle pas la même langue, parfois même il sent mauvais, hein, et ça peut correspondre à la définition du barbare, comme dans l'Antiquité, par exemple. Et cet autre en trop, il est aussi trop nombreux. Il a tendance à pulluler. Et là, on va retrouver des métaphores animales qui vont se jouer sur les rats, le cancrelat, comme au Rwanda, les insectes, etc. Donc, cette figure de l'autre en trop, elle se coagule à travers des discours de séparation, de stigmatisation, et elle va être une sorte d'interprétation de la crise dans cette société. Et tout le problème est de savoir si on va en rester là ou si ça va monter en puissance. Et bien sûr, il y a une autre figure qu'il ne faut jamais oublier, c'est la figure du suspect. Celui-là, ce n'est pas le même. Souvent, elle cohabite ces deux figures. Celui-ci, cette figure du suspect, eh bien, on va dire, il est comme nous, quoi. Il nous ressemble, mais il complote. Il dit qu'il est pour la révolution, mais c'est faux, c'est un traître, c'est un bourgeois. Donc, on sait ce qu'il faut faire. Alors, ces deux figures de l'ennemi qui me semblent matricielles vont impliquer des processus de destruction différents, je pourrais revenir là-dessus. Mais ce qui est essentiel, c'est que on peut avoir ces figures dans une société et que ces discours de haine ne conduisent pas à une montée en puissance de la violence. Il y a des discours inflammatoires qui n'enflamment pas grand-chose. Ce que j'appelle le massacre, avant même que ce soit un génocide, est souvent le résultat d'un processus mental. Ça se joue dans nos têtes. C'est-à-dire que c'est une représentation collective d'un autre à stigmatiser, exploiter, violer, humilier, chasser en tout ou en partie. Et pour moi, ça, c'est l'approche matricielle et ça se joue entre le réel et l'imaginaire. C'est une représentation un peu délirante de cet autre. Les nazis n'ont pas inventé les juifs, ils ont une tradition millénaire, mais ils en donnent une vision, une représentation délirante. Les Tutsis, vus par les extrémistes Hutus, c'est la même chose. Alors, on est dans des cadres de sens, si je pourrais reprendre par exemple l'expression de Goffman. Et tout ce problème des cadres de sens, c'est qu'ils donnent une interprétation de la crise dans cette société, de telle sorte qu'on sait qui haïr. Et si on sait qui haïr, on a moins peur. Je peux dire que parfois, finalement, on en reste là, où ça ne va pas tellement plus loin. Il y a des actes antisémites, des actes racistes qui peuvent effectivement se déclencher, mais ça reste suscité par un groupe minoritaire, ou par des individus qui veulent en découdre, etc. Tout change quand ces idées sont reprises dans le cadre d'un pouvoir d'État. C'est-à-dire tout change quand ce que j'aurais pu appeler, j'aurais pu le dire tout à l'heure, des entrepreneurs identitaires qui ont véhiculé ces idées de ces figures de l'ennemi, ce que j'appelle le « eux » contre le « nous ». D'ailleurs, on pourrait définir le « nous », j'aurais pu aussi développer ça, c'est-à-dire « nous », nous avons été victimes de l'histoire et maintenant, voilà, il faut se défendre contre ce « eux » qui nous a fait tant de mal, etc. Bon, je ne vais pas développer ça, mais il y a cet antagonisme « nous » contre eux. Et quand ce « nous » prend le pouvoir, effectivement, prend les rênes d'un État. On peut penser bien sûr à Hitler en 1933, mais on en a bien d'autres exemples à l'esprit. Tout change. C'est-à-dire que, de mon point de vue, une idéologie ne conduit pas à des violences de masse en tant que telle. Il faut qu'elle soit relayée, incarnée, institutionnalisée dans le cadre d'un pouvoir d'État. À partir du moment où ces idées racistes, antisémites sont reprises au niveau politique, il y a deux phénomènes fondamentaux, à mon avis, qui se jouent. Le premier, c'est que c'est une idéologie d'État, et donc on est tenu d'obéir à l'État, et donc toutes sortes de fonctionnaires de cet État sont tenus d'appliquer des instructions qui vont aller dans le sens de ce racisme et de l'antisémitisme. C'est fondamental en termes de soumission à l'autorité, même s'ils ont parfois des problèmes de conscience. Et le deuxième élément, c'est sur le plan de la propagande. Il y a maintenant une propagande d'État. Avant, c'était des idées qui circulaient dans le pays, c'était à travers des bulletins, etc. Mais là, maintenant, c'est la propagande d'État. Et même si cette population en tant que telle n'est pas antisémite dans son ensemble, eh bien, elle va se dire, ah oui, mais ils ont peut-être raison finalement, il y a un problème avec les Juifs. Peut-être qu'ils exagèrent quand même, mais enfin, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, quoi. Il faut résoudre ce problème. Il y a un problème juif. Donc, à ce moment-là, ça devient l'opinion dominante. Et tu as, par exemple, Noël Neumann, qui avait très bien montré, dans un livre qui s'appelle « La spirale du silence », combien, dans ce moment-là, les opinions dissidentes tendent à se taire. Pas toutes, mais pour la majorité. Et puis, le troisième phénomène, c'est qu'on peut, maintenant qu'on est dans cette société-là, on peut s'en prendre aux victimes beaucoup plus clairement. On peut tuer un juif dans les rues de Berlin et on n'est pas puni. On peut, c'est pas la même chose, mais on peut violer des femmes musulmanes en Bosnie et on n'est pas puni. On peut aussi tuer des Tutsis au Rwanda dans les années 60, 70 et on n'est pas puni, etc. Il y a une sorte d'impunité qui s'est installée. Et donc, le climat a totalement changé. Mais on n'est pas encore dans un processus génocidaire parce que il y a un racisme d'État, un antisémitisme d'État qui va, entre guillemets, se contenter de prendre des mesures de restriction, je dirais d'apartheid, pour prendre par exemple aussi le modèle de l'Afrique du Sud, contre les groupes ainsi désignés, et fabriquer une société compartimentée, comme le dirait notre collègue Abraham de Swam. Donc on peut rester à ce stade-là. Et l'autre stade, c'est qu'on va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va imaginer, on va être dans un processus qui va aller vers non seulement cette catégorisation de sous-citoyens, mais aussi cette idée que ce ne sont plus des humains, et donc il faut s'en débarrasser. Mais là, c'est encore un autre état.
Est-ce que la nature de la relation entre le groupe dominant qui a accédé au pouvoir d'État sur un mode raciste ou antisémite et le groupe dominé, est-ce que la nature de cette relation est déterminante dans le passage ou non au génocide ?
Certainement, certainement. Et là, on voit bien la différence à faire entre esclavagisme ou esclavage et génocide. Dans un régime esclavagiste, peut-être on peut tuer les esclaves, oui, on le fait, mais on n'a pas intérêt à trop les tuer parce que c'est eux qui amènent de la richesse et du profit. Donc d'une certaine manière, dans un régime esclavagiste, il y a une auto-limitation du meurtre de masse. Dans un processus génocidaire, non. On veut se débarrasser d'une partie ou de la totalité des individus. Mais note que les nazis ont eu ce problème-là à un moment. C'est-à-dire qu'il y avait une vision qui consistait à dire « Bah oui, mais il faut quand même garder des juifs pour faire fonctionner, je ne sais pas quoi, des usines, des camps, etc. » Puis l'autre disait « Non, non, il faut s'en débarrasser. » Donc il y a cette question, effectivement, de l'utilité des individus qu'on exploite, voire qu'on veut éliminer. Mais ce qui me semble plus fortement impliquer le basculement dans un processus génocidaire, c'est la guerre. C'est la guerre. Je crois que nombre d'exemples montrent qu'il y a des relations extrêmement fortes entre guerre et génocide. Si on prend, par exemple, les trois génocides, on va dire, reconnus dans la communauté des chercheurs, je ne dis pas en droit international, parce que c'est encore un autre problème, les Arméniens, les Juifs et les Rwandais Tutsis, on est dans ces trois cas dans un contexte de guerre.
Qu'est-ce que ça nous apprend de la guerre? Ou qu'est-ce que ça nous dit de la guerre? Est-ce que c'est une façon... est-ce que ça accompagne l'expansion guerrière? Est-ce que ça accompagne au contraire la défaite guerrière? Enfin, quel est le lien?
Alors sur ce plan-là, il y a plusieurs hypothèses, plusieurs cadres d'analyse, disons, qui sont proposés. Ce qui est certain, c'est que dans le contexte de la guerre, il y a un ennemi extérieur, toujours, évidemment. Or, quand on regarde les idéologies génocidaires, par exemple dont je viens de parler, les Arméniens, les Juifs, les Rwandais aussi, on voit une fusion, mais intense, entre la figure de l'ennemi extérieur et la figure de l'ennemi intérieur. C'est le même. On est dans le cadre d'un complot. On est dans le cadre d'un complot. Et donc, ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils complotent contre nous, ce sont des alliés de l'ennemi extérieur. C'est vrai pour les Arméniens qui seraient liés aux Russes, c'est vrai pour les Juifs, bien sûr, avec la figure du bolchevique, donc de la figure du judéo-bolchevique qui naît déjà dès les années 20, par Rosenberg et par Hitler, évidemment. Et c'est vrai pour les Rwandais Tutsis avec le FPR. Donc cette concaténation des deux figures de l'ennemi va littéralement être explosive. Et donc, tu vas avoir deux types de figures. Tu vas avoir un processus génocidaire qui va naître... dans le cadre d'une possible défaite, par exemple, les Turcs perdent une bataille importante contre les Russes, ah, mais voilà, on va s'en prendre aux Arméniens. Ça, c'est classique. Pareil pour les Rwandais Tutsis, hein, le FPR avance, mais au moins, on va s'en prendre à l'ennemi intérieur. Ils ne vont pas nous avoir. Donc, ce processus de la guerre va accélérer une radicalisation de la lutte et de l'élimination de l'ennemi intérieur. Mais attention, il peut y avoir aussi le phénomène dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on regarde la montée, par exemple, en puissance de la Wehrmacht vers l'Union soviétique, là on est en 1941, on est dans un processus d'intense, de guerre totale, on va dire, de guerre totale, apparemment une victoire absolument insolente des Allemands, et donc on va, dans ce contexte de guerre, en profiter pour s'en prendre à l'ennemi intérieur. Donc il y a les deux figures possibles. On est dans un projet systématique, et là, c'est l'idée de l'intention de détruire un groupe quand même, là, et du coup on retrouve la notion de génocide, y compris en droit international, proposé par Lemkin, de tous ceux qui sont considérés comme juifs dans la montée de l'armée allemande vers Moscou. Donc on n'est pas simplement dans une logique de la guerre qui va permettre le génocide. En fait, la guerre, c'est jamais la cause du génocide. C'est vrai pour les Arméniens aussi. La guerre, c'est les circonstances. Elle crée les conditions favorables, les circonstances favorables pour que le processus génocidaire se mette en route. Et donc, dans ce cas, eh bien, oui, la guerre favorise le massacre des populations civiles, mais en même temps, il y a cette idéologie délirante des nazis qui voit le juif désormais comme un moins que rien, un inhumain, un déchet dont il faut se débarrasser.
À suivre ce que tu nous dis, j'hésite entre deux interprétations de ce que tu viens de nous expliquer. Parce qu'à certains moments, tu insistes beaucoup sur l'expérience nazie, qui est peut-être la plus extrême, en tout cas la plus complexe, et elle apparaît comme quelque chose d'unique. Et à d'autres moments, tu parles de processus qui surgissent, les Turcs et les Arméniens, les Tutsis et les Hutus, etc. Et donc ma question, elle est la suivante. Il y a eu un débat ces dernières années pour savoir si la Shoah et le génocide des Juifs, donc, c'était unique ou pas. Est-ce que tu peux nous aider à trancher ou à mieux formuler peut-être les termes de ce débat ?
Ben, je t'en remercie de me poser cette question parce qu'en fait, elle m'a préoccupé pendant des années. Et je me permets de signaler que le résultat de ce travail, c'est mon livre « Purifier et détruire ».
Tout à fait.
Pourquoi ? Parce que j'ai voulu, mine de rien, prendre cette question en proposant une analyse comparative du cas de ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah, du Rwanda et de la Bosnie. Et je suis parti de la notion de massacre, comme j'ai dit tout à l'heure, pour voir dans quelles circonstances on monte vers le processus génocidaire. Et je suis parti avec cette autre idée que comparer ne revient jamais à dire que c'est équivalent, ça n'a pas de sens. Comparer, c'est différencier. Donc mon travail de comparaison entre ces trois cas visait à différencier leur dynamique propre. Et donc c'est une manière de répondre à la question. Cette notion d'unicité, elle me rend très mal à l'aise parce qu'on est tous uniques, tout événement historique est unique. Alors, qu'est-ce qui peut être unique dans le cas de la Shoah ? Disons que c'est tout mon travail qui a consisté à me semble-t-il, montrer que le projet de la destruction des Juifs d'Europe est unique au sens où il est conçu au niveau mondial, premièrement. Deuxièmement, mais ça, je vais enfoncer quelque chose qui est très connu, mais c'est quand même important de le dire, il est unique au sens où on invente une technologie de meurtre à travers les chambres à gaz qui n'avait jamais été imaginée. Mais il y a un troisième aspect qui, pour moi, rend le cas de la Shoah unique et sur lequel, il me semble, on n'insiste pas suffisamment. Parce que tout ce que nous venons de dire là, en parlant de l'Est, en parlant des Arméniens, en parlant du Rwanda, on va dire aussi en parlant de la Bosnie, eh bien, on est dans des logiques de guerre, c'est-à-dire qu'on voit des groupes armés avancer vers les victimes, se saisir de victimes et les massacrer. Donc, ça se rapproche d'une opération militaire, sauf qu'on élimine des civils. Or, ce qu'ont inventé les nazis, c'est un processus d'automatisation de la destruction, c'est-à-dire que ce sont les victimes elles-mêmes, après avoir été arrêtées, sont transportées dans des trains et détruites à Auschwitz ou ailleurs. C'est un processus totalement unique également et absolument pervers. Voilà pour moi
ou
les trois éléments.
Un processus dans lequel les victimes participent à leur propre destruction.
Je ne dirais pas ça. Je dirais que
elles sont obligées de participer.
Elles sont obligées. C'est-à-dire que c'est un processus qui va vers une certaine automatisation et sans qu'il y ait des militaires, des policiers. Enfin, si, il y a les policiers qui les arrêtent au d'abord, mais ce ne sont pas les policiers qui vont les tuer. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un champ de bataille. Ce qui me semble essentiel dès lors qu'on parle d'un processus génocidaire, c'est d'une part la question de la pureté et de l'autre côté, en complément, la question de la sécurité. Alors la pureté, c'est une manière d'essentialiser l'autre dans les deux sens. C'est-à-dire nous représentons le corps pur de cette société, et là on va rejoindre aussi peut-être des idées sur le darwinisme social, mais de l'autre, il s'agit de se débarrasser de cet élément impur. Donc, de mon point de vue, cette rhétorique pureté-impureté est de nature à faire monter en puissance le processus de violence de masse. Mais ce qui va être le plus déterminant pour le conduire à ces formes de violence extrêmes que vont être les génocides, c'est le dilemme de sécurité. C'est-à-dire que ça peut être dans l'idéologie prévue, enfin déjà conceptualisée avant, mais dans l'action même, comme le fait Himmler en 1943 en parlant à des responsables SS, écoutez, on fait un sale boulot, on est d'accord, on va tuer les enfants, on est d'accord, vous êtes très courageux, etc. Mais écoutez, il faut le faire, parce que sinon, ils vont se venger à la prochaine génération. Donc, on est véritablement dans un dilemme de sécurité. C'est eux ou nous. Et c'est ce dilemme de sécurité total, qui est lié à la guerre totale, qui va faire en sorte qu'il n'y a plus à avoir de limites dans l'exercice de la violence, et c'est ainsi qu'on va inclure les enfants. Et note-le, le criminel, au moment même où il est en train de commettre ce crime de masse, se présente comme innocent de son crime. Puisque de toute façon, si on ne le faisait pas, ça serait eux qui le feraient. Je propose de distinguer fondamentalement dans ces processus de destruction de masse deux logiques différentes qui sont liées aux deux figures de l'ennemi dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que la figure de l'autre en trop, elle est embedded, elle est enracinée dans une logique d'éradication de cet autre, vu comme malfaisant. Ça va être vu comme une plante, comme une maladie, une plante vénéneuse, une maladie contagieuse, etc. Il faut déraciner littéralement ce corps étranger de la société. Et d'ailleurs, moi je trouve que par rapport à la définition de l'antisémitisme en France, la définition qui me semble la plus correspondre à cette réalité, c'est l'antisémitisme dès lors qu'on voit le juif comme un corps étranger à la nation. Comme un corps étranger à la nation. La question, c'est ou de le mettre à part ou de le déraciner. Donc, cette logique-là de l'autre en trop va conduire à ces processus d'éradication. Là, on va trouver le terme de nettoyage ethnique qui avait été utilisé dans les années 90 à propos des Balkans. Mais on sait très bien que ce sont des pratiques qui sont vieilles comme le monde, qui étaient déjà pratiquées dans les Balkans d'ailleurs au début du XXe siècle. Et cette logique-là, elle peut aller encore plus loin. Donc il ne s'agit pas d'éradiquer seulement en partie le groupe, mais totalement. Et là, on va vers le processus génocidaire. Bon. Mais la deuxième logique qu'il ne faut jamais oublier, et j'aurais peut-être pu commencer par celle-là parce qu'elle est souvent première, c'est détruire pour soumettre. C'est l'idée de l'ennemi vu comme le traître, comme le suspect, comme celui qu'il faut affronter dans la guerre. Et donc le massacre, dans ce cadre-là, oui, il va avoir, bien sûr, il va y avoir toutes sortes de variantes. Et ce, depuis le début de l'humanité, depuis l'Antiquité. Mais c'est un massacre qui est fait pour faire peur, qui est fait pour terroriser, pour soumettre l'ennemi. Donc il y a une utilisation politique et militaire du massacre, mais pour arriver en quelque sorte à la capitulation. On est vraiment dans des logiques de guerre, comme donc entre les États-Unis et le Japon. Et ces logiques ce que j'appelle de destruction-soumission de l'ennemi, peuvent aussi se réinjecter dans la société dès lors que le groupe prend le pouvoir. Note qu'il y a une variante politique, bien sûr, de politique intérieure, de cette logique de la destruction-soumission, qui est liée à la guerre civile, par exemple. On ne peut pas parler de guerre civile comme d'une pratique génocidaire. Moi, j'entends des collègues parler, ça ne me paraît pas cohérent.
C'est excessif. En fait.
C'est excessif. Et ce qui se produit dans une guerre civile, si le groupe en question prend le pouvoir, à ce moment-là, il va installer un régime qui va tendre à soumettre politiquement, légalement, juridiquement, etc., le groupe qui a vaincu. Donc et là, on va penser à l'Union soviétique, on va penser au Cambodge, on va penser à toutes sortes de régimes communistes. Et c'est en ce sens-là que, pour moi, il y a une différence fondamentale entre les violences totalitaires, enfin, des processus de destruction de masse tels qu'on a pu les voir à l'œuvre dans l'Allemagne nazie et dans l'Union soviétique.